Sud Radio CSA La France, midi, midi 30. Nathalie Schrengerma.
L'été revient, débonnaire. J'irai bien divaguer et prendre l'air.
Bonjour à tous, bienvenue dans CSA La France, spécial été. On en profite, ces musiques qui nous font voyager. J'espère que vous passez un bel été. Alors, on est vraiment dans une ambiance été, ambiance estivale. On continue de vous faire découvrir des entrepreneurs, des talents qui font le pari du Made in France. On va s'intéresser aux must-have de l'été, comme diraient les spécialistes de la mode, ou encore les incontournables de l'été, comme le cahier de vacances. Il ne fait pas toujours le bonheur des enfants, mais ils font partie de ces symboles des grandes vacances. Les premiers cahiers de vacances datent des années 1930. Donc tout à l'heure, je vous ferai découvrir les tout nouveaux cahiers solidaires et éco-responsables en partenariat avec le Secours Populaire. Une très très belle idée. Le premier cahier de vacances solidaire pour faire partir des familles en vacances. Un cahier de vacances acheté égale un don au Secours Populaire français. Mais tout de suite, parmi les must-have de l'été, le petit cabas est synonyme de vacances d'été, bien évidemment, de marché provençal, de flânerie en bord de mer, l'île de Ré, la Provence, justement, direction la Provence, avec les cabas de Josépha. C'est parti.
Sud Radio, c'est ça la France.
Et nous sommes en studio avec Valérie Decima, qui a justement créé les cabas de Josépha. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Alors Valérie, vous dites que les filles et les sacs, c'est toute une histoire. Expliquez-nous pourquoi.
Ah bah écoutez, vous savez, avec tout le marché du sac, le choix, les cabas, l'histoire du sac, c'est infini. C'est vraiment infini.
Il y a une relation particulière avec son sac, la femme, c'est quelque chose qui nous suit partout. En général, d'ailleurs, on ne retrouve jamais rien à l'intérieur. Enfin, moi, je suis partie de ces gens-là.
Petit, moyen, grand, on ne trouve rien. Et j'avais vraiment envie de partir sur un sac vraiment insolite. Et tout est né, je cherchais mon sac, je me dis hop, j'en prends un au hasard, j'arrive au supermarché, je me dis non, encore, j'ai encore oublié ma liste. Et là je me suis dit, il faudrait carrément qu'il inventait un sac avec une petite ardoise où on note, et me voilà, partie à la
recherche. Vous voulez
dire
qu'on note la liste des courses sur le sac?
Exactement.
Pour être sûr de ne jamais l'oublier.
Voilà. Un petit tissu, c'est un petit tissu ardoise, est inséré sur la toile de jute, et à l'aide d'un stylo craie, on écrit ses courses, son humeur, ses notes, et on l'efface à l'aide d'un petit chiffon, d'un petit peu d'eau, et on recommence l'opération à l'infini. Voilà.
Alors, Valérie est en train de vous décrire ce cabas qu'elle a inventé. C'est vrai qu'il est magnifique, moi je le vois, en toile de jute. Il est fait main?
Il est fait entièrement à la main.
Où ça? En Provence?
En Provence, à Sanary-sur-Mer. Et je travaille essentiellement avec des acteurs locaux. Donc, une petite couturière, une petite dame que j'ai rencontrée, qui était à la retraite et qui m'a dit « Oh, j'aimerais bien reprendre la couture. » Eh bien, je lui ai dit « Écoutez, votre
J'ai une super idée pour vous. »
Voilà. Votre vœu est exaucé. Allez-y.
Donc, on a ce cabas en toile de jute. On a cette petite fenêtre en ardoise sur laquelle on va pouvoir écrire nos petites courses. Donc, c'est de la jute, du coton, des finitions très, très soignées. On le disait, entièrement fait à la main.
Tout à fait.
Alors, une fois qu'on a l'idée, c'est vrai. Bon, ben voilà, Valérie, vous avez votre idée. Après, il faut la mettre en œuvre.
Oui, alors là il faut vraiment y croire, parce que c'est bon, voilà.
Le parcours du combattant.
C'est le parcours du combattant, oui, vraiment, parce que là sur le coup je suis seule, je rends hommage à Gigi qui s'appelle donc ma petite couturière, qui est là pour me donner des conseils en matière de fabrication, mais tout le reste, par quoi je commence? Par quoi je commence? Donc la petite page
Facebook. On devient entrepreneur, c'est pas simple. Hein,
ah non. Franchement, non. Et puis, de se dire, est-ce que ce cabas va plaire? C'est déjà, je pense que le fait de le présenter à ses amis autour de soi, alors c'est vrai qu'au supermarché, je te posais carrément la question, qu'en pensez-vous
Ah, vous avez fait votre petite étude de marché comme ça
Local,
en allant à la rencontre des gens,
Exactement.
Leur posant des questions. Et alors, qu'est-ce qui revenait le plus souvent?
L'originalité. En fait, c'était ce côté original, mais en même temps chic, parce que c'est vrai qu'un petit cabas, un peu mode, tendance, voilà, on se dit, au bout d'un mois, on va s'en lasser. On est quand même dans un monde de consommation où les gens se lassent beaucoup, très vite des choses. Donc, je me suis dit, il faut quand même que j'allie ce côté original au côté chic. Et lors de mon inscription, pour la petite anecdote, à la chambre de commerce, la dame me dit, je peux en commander un tout de suite ? Et je lui dis, écoutez, vous savez, je vais carrément venir vous le livrer. J'étais tellement heureuse et fière.
La première cliente,
voilà. C'était une dame très charmante de la CCI.
Qu'est-ce qui plaît autant dans le cabas ? C'est que quand on pense à l'île de Ré, il y a le panier de l'île de Ré. Quand on pense au sud de la France, la Provence, il y a le cabas, il y a ce grand sac. On va mettre aussi bien les courses que la serviette de plage.
Parce que justement, je pense qu'on peut y mettre toute sa vie à l'intérieur.
C'est ce que vous faites, vous transportez toute votre vie
voilà,
dans votre cabas.
Exactement. Et justement, alors il y a des petites pochettes que j'ai créées justement pour éviter de, comme vous le disiez, on cherche toujours ses clés. Enfin, donc la petite pochette où on va mettre son quotidien, son téléphone, son porte-monnaie. Mais ça nous empêche pas. Alors on peut, voilà, on fait le marché, on se dit bah tiens, je vais rapporter mes petites tomates. Hop, on peut les glisser dans le cabas. C'est vraiment.
C'est le must-have de l'été, comme je disais tout à l'heure.
J'aimerais bien que ce soit ça.
Alors, ça s'appelle les cabas de Josépha.
Le petit cabas de Josépha.
Le petit cabas de Josépha, et non le petit cabas de Valérie, votre prénom. Pourquoi Josépha ?
Josépha, c'est ma fille, en fait. Ah. Et voilà, je me suis dit, elle a un prénom un petit peu, pas insolite, mais qui est plutôt rare. Et je me suis dit, voilà, c'est bon, déjà on est fiers de
son enfant.
Voilà, et puis je me dis bon, c'est, et puis peut-être que si le petit cabas de Josépha a de belles années, eh bien plus grande, ma fille sera fière de reprendre
l'entreprise. Alors c'est tout récent, hein, le petit cabas de Josépha. Ça a été créé en quelle année là ? Il y a quelques mois.
Ouais. On va dire vraiment à la fin l'idée a germé vraiment en janvier. Et puis j'ai commencé à créer quelques prototypes qui étaient bon. Voilà, il y avait des choses à revoir. Donc on va dire qu'en 4 mois. J'ai fait le tour du petit cabas, en tous les cas dans ce produit, parce que au départ c'était vraiment un monoproduit, et là je travaille sur d'autres choses pour la rentrée.
Ah oui, pour élargir la gamme.
Voilà, avec un petit sac à dos doudou pour les maternelles.
Ah, ça c'est encore inspiré, j'imagine, de Josépha.
Voilà, toujours avec l'ardoise magique, pour que la maman puisse écrire le petit mot à la maîtresse, et du coup, la maîtresse répondre à la maman.
C'est vrai qu'une voix Sud Radio, on aime mettre en avant les jeunes entrepreneurs, hein, ceux qui se lancent, on aime les accompagner. Alors, c'est quoi la prochaine étape pour vous ? C'est-à-dire que là, il y a les petits cabas de Josépha, donc c'est continuer à gagner en notoriété, les commercialiser et élargir la gamme, comme vous le disiez à l'instant, avec les petits sacs à dos ?
Alors, moi, je voudrais vraiment que ça reste, je souhaiterais, pardon, que ça reste dans le côté local, parce que c'est vraiment un produit artisanal, fait main, et du coup, je ne souhaite pas que ça disparaisse. Voilà. Parce que du coup, c'est vrai qu'on a envie d'être connu, de grandir, gagner sa vie, c'est aussi important, mais de là à générer un trafic incroyable, les gens vont se dire « Non, mais c'est pas possible. » Si, j'aimerais bien justement que ça reste dans ce côté un petit
à
peu...
Taille humaine. Ce côté artisanal, voilà. Aussi bien dans la fabrication que dans la distribution. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour les trouver, les petits cabas de Josépha ?
Alors, sur lepetitcabasdejosepha.com.
Donc, en ligne sur Internet.
Voilà. Et après, je suis présente sur les réseaux. Et dans le Sud, sur certains marchés...
C'est ce que j'allais dire. Voilà. Les petits cabas, les cabas sur les marchés, ça marche très bien en général.
Marché créateur, exactement. Ouais.
C'est souvent là où on a envie de s'acheter un souvenir de vacances, et aussi bien pour les locaux que ceux qui seront de passage. Vous êtes dans l'une des régions, la région la plus visitée de France pendant l'été.
C'est vrai, une belle région, j'avoue.
bravo Valérie Dessimin. Je rappelle que vous avez inventé les petits cabas de Josépha qui sont faits en toile de jute, en double couture, enfin une doublure pardon, coton, et surtout cette petite ardoise, hein, c'est ce qui fait la spécificité de cette création. On peut inscrire un petit mot d'amour, sa liste de courses, on n'a pas eu de liste de course, mais on peut aussi mettre un petit message.
Son humeur, tout.
Un smiley qui sourit pas, ne venez pas me parler aujourd'hui. Merci beaucoup Valérie Nissima et longue vie au petit cabas de Josépha.
Merci pour votre accueil.
Allez, on va se quitter un court instant et juste après, on va se retrouver avec un autre incontournable de l'été, hein, qui ne plaît pas toujours aux enfants, mais il faut qu'on raconte cette belle histoire des cahiers de vacances. Attention, cahiers de vacances qui ne cessent d'innover avec les cahiers de vacances solidaires et éco-responsables. À tout de suite.
Sud Radio CCA La France, midi 30, Nathalie Schrengerma.
Nous voilà de retour dans notre spécial été. Alors, beaucoup de parents se demandent quel cahier de vacances acheter pour mon enfant. Et si vous faisiez le choix d'un cahier de vacances solidaire et éco-responsable en partenariat avec le Secours Populaire, on en parle tout de suite dans CCA La France.
Sud Radio, c'est ça la France.
Et nous sommes en ligne avec Carole Gavaggio, responsable éditoriale chez Magnard. Magnard, qui fait partie du groupe Albin Michel, la filiale éducation. Bonjour Carole.
Bonjour.
Alors déjà, qui a eu cette idée folle un jour d'inventer les cahiers de vacances? Est-ce que vous pouvez nous rappeler cette histoire? Je crois que ça commence chez vous.
Oui, effectivement, c'est les éditions Magnard qui ont inventé les cahiers de vacances. Il y a bien longtemps, c'était Roger Magnard en 1933. C'était un monsieur qui travaillait en fait à l'époque dans la papeterie. Et à cette époque, après la crise de 1929, les affaires n'allaient pas très bien. Les seules choses qui se vendaient encore bien, c'était les cahiers d'écoliers, ouais. Mais qui étaient uniquement destinés à la rentrée. Oui. Donc il a cherché une idée pour vendre des choses à un autre moment qu'à la rentrée. Et c'est là qu'il a eu l'idée de proposer des cahiers de vacances. C'est le premier qui s'est dit qu'on pouvait proposer des choses avec un cheminement plus ludique, moins scolaire que ce qui existait. Et c'est comme ça que les cahiers sont nés à ce moment-là. Et puis ensuite, très vite, il y a eu les congés payés en 1936. Et là, c'est devenu un énorme succès. Qui s'est vraiment répandu très très vite.
Ah, il a eu cette très très belle idée, alors je sais pour le bonheur ou le malheur des élèves, effectivement d'imaginer cette distribution de cahiers avant l'été. On a une idée du nombre de cahiers de vacances vendus chaque année?
J'ai pas le chiffre en tête, je suis désolée.
Mais il y a toujours autant de succès, c'est toujours autant demandé?
C'est toujours très très demandé et c'est très français en fait. La France est le seul pays où on a des cahiers de vacances. Donc c'est vrai que voilà, les familles souvent achètent de la crème solaire et un cahier de vacances avant de partir. C'est un peu une tradition française. Alors, les cahiers ont beaucoup évolué depuis l'époque dont on parlait juste avant.
Oui, alors ce qui est incroyable aux éditions Magnard, c'est que vous innovez constamment dans les cahiers de vacances. Donc on a bien compris, l'écriture se veut de plus en plus ludique, mais il y a toujours un volet social, un volet écologique qui est là.
C'est vrai que cette année, ça nous tient vraiment à cœur parce qu'on a effectivement un partenariat avec le Secours Populaire Français pour notre collection de cahiers de vacances traditionnels. Et en fait, ça permet, il y a un don pour chaque cahier acheté reversé au Secours Populaire et ça permet à des familles en difficulté de partir en vacances. C'est une opération qui s'appelle Des vacances pour tous du Secours Populaire.
C'est la première fois que vous lancez cette opération-là ?
C'était déjà le cas l'année dernière et c'est vrai que voilà, cette opération avec le Secours Populaire, on en est très fiers et on l'a prolongée. Et puis effectivement, quand vous disiez qu'on innovait, c'est aussi parce que cette année, on a une autre collection toute nouvelle qui s'appelle Vacances Vertes et celle-ci, elle a un positionnement éco-responsable. Donc c'est la nouveauté de cette année, donc on a vraiment une offre variée et je pense que les enfants peuvent trouver leur compte dans l'une ou dans l'autre ou dans les deux, voilà.
Alors justement, vous parlez de ces cahiers de vacances éco-responsables, après on va revenir sur ce cahier solidaire. Oui, alors c'est très original parce qu'il y a des feuilles qui sont donc dans le cahier de vacances, hein, qui sont parfois ensemencées de graines, c'est ça qu'on peut replanter, c'est quand même génial comme idée pour les enfants.
Effectivement, il y a un petit bonus, c'est du papier ensemencé avec des graines de coquelicots et l'enfant peut les planter pour faire pousser ses coquelicots. Donc c'est un petit bonus assez sympa qui plaît beaucoup. Et puis en dehors de ça, toute la fabrication du cahier est éco-responsable. On a vraiment travaillé pour être au plus haut des normes environnementales. C'est du papier recyclé bien entendu. La couverture est carrément compostable. Ouais. On a aussi fait en sorte d'utiliser des encres écologiques. C'est des imprimeurs, les imprimeurs avec lesquels on a travaillé sont engagés dans des actions pour préserver l'environnement. Bien sûr, on a imprimé en France pour réduire le transport et l'empreinte carbone. Voilà, donc on a travaillé vraiment pour proposer quelque chose vraiment d'éco-responsable. Et puis à côté de ça, bien entendu, dans le contenu, l'idée c'est de sensibiliser les enfants à toutes ces problématiques environnementales. Mais tout ça de manière très ludique, avec des thèmes très variés comme les abeilles, la biodiversité, la pollution des océans, le recyclage, le tri des déchets. Voilà.
Et donc, combien coûtent justement ces cahiers éco-responsables? Fait qu'ils soient entièrement fabriqués en France avec des matières écologiques, recyclables, est-ce que ça coûte plus cher qu'un cahier classique?
Là, les cahiers en question coûtent 5,90 €, ce qui reste quand même un tout petit prix pour des ouvrages comme ça, avec en plus des bonus. Voilà.
Et en comparaison avec un cahier classique, celui que l'on connaît tous?
Le cahier de vacances chez nous est le moins cher qu'on peut trouver sur le marché. L'autre, il est à 4,30 €.
Ah oui, il n'y a pas une grande différence.
Mais on a des concurrents qui sont plus chers et donc nos cahiers de vacances vertes ne sont pas plus chers que les cahiers globalement du marché.
Alors, ça serait génial d'imaginer un jour ces cahiers étendus sur l'ensemble de la gamme, voir que c'est possible de le faire dans le cadre d'une édition cahier de vacances éco-responsable. On se dit, alors pourquoi pas tous les cahiers?
Oui, effectivement, de toute façon, on est en train de réfléchir à ça. C'est des problématiques importantes et c'est vrai que même nos autres ouvrages sont déjà tous, pour la plupart, en papier recyclé. Et voilà, les choses évoluent et c'est vrai que l'idée, c'est d'avancer dans ce sens-là sur toutes nos productions.
Comment fait-on justement pour constamment se renouveler dans l'écriture, pour trouver des idées nouvelles, toujours réussir à être au plus près de ce qu'aiment les enfants, pour ne pas les décourager, pour leur donner envie justement d'être content de retrouver l'école à la rentrée?
Oui, effectivement, notre objectif, c'est de rendre les choses les plus attrayantes possibles dans les thèmes et puis dans le graphisme. On travaille avec de très nombreux illustrateurs, de très nombreux graphistes pour vraiment que ce soit très, très attirant pour les enfants. Et puis, on travaille avec des équipes d'auteurs qui sont des enseignants et qui connaissent bien les enfants, qui les côtoient chaque jour. Donc, on travaille pour mettre au point les choses à la fois pour être conforme au programme et puis leur proposer un contenu de qualité. Et puis en même temps, en apportant tout ce qui leur plaît pour les aider à se mettre dans le bain.
Et le cahier de vacances, alors solidaire et éco-responsable, j'aimerais bien qu'on y revienne en partenariat avec le Secours Populaire. Là encore, le contenu a été, j'imagine, orienté en conséquence. Qu'est-ce qu'on peut apprendre aux enfants pour qu'ils puissent s'instruire tout en se divertissant?
Vous parlez du cahier de vacances traditionnel.
Solidaire, éco-responsable, voilà.
Non, celui qui est éco-responsable, c'est Vacances Vertes. Et effectivement, là, dans le contenu, on a aussi travaillé avec une association qui s'appelle CIE et qui, en fait, fait des interventions dans les écoles auprès des enfants. Donc, qui est vraiment habituée à rencontrer des publics jeunes et à les sensibiliser avec plein de petites activités, des petits jeux, à les sensibiliser à l'environnement, à la protection de l'environnement.
Alors j'imagine que vous êtes déjà en train de travailler sur les prochaines éditions.
Oui, on commence à réfléchir, effectivement, ça va vite.
Alors quelle sera la prochaine étape en termes d'idées innovantes pour constamment étonner et faire évoluer ces cahiers de vacances, comme je le disais, qui datent de 1930?
Ouais, là c'est un peu tôt pour que je vous réponde sur l'année prochaine encore.
Et vous êtes content pour l'instant des démarrages de ces cahiers solidaires ou éco-responsables, parce que finalement il y a les deux possibilités?
Oui, effectivement, là, ça démarre très bien. Le pic de vente, c'est la troisième semaine de juillet, traditionnellement. Mais là, on est déjà, il y a déjà des très bonnes ventes. On est plutôt satisfait.
Merci beaucoup, Carole Gavagio. Je rappelle que vous êtes responsable éditorial chez Manière. Manière, c'est la filiale éducation du groupe Albin Michel. C'est l'éditeur qui a inventé ces fameux cahiers de vacances. Et vous le disiez tout à l'heure, c'est très français. Hein. On ne trouve pas son équivalent ailleurs.
Non, c'est vrai.
Merci beaucoup et je vous souhaite un très bon dimanche et surtout un bel été, Carole Gavagio.
Je vous remercie, au revoir.
Au revoir.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibault le French Trotter.
Cette semaine, on prend la direction de la Sologne pour découvrir le plus petit des châteaux de la Loire, le château de Troussé, à quelques kilomètres de Cheverny dans le Loir-et-Cher. Alors Troussé, c'est un petit bijou renaissance, un petit concentré d'histoire. Et on va en savoir plus grâce à sa propriétaire, Isore de Sainte-Marie.
Alors Isore, pourquoi il faut absolument venir à Troussé?
Troussé, c'est un résumé de l'architecture de Val-de-Loire. C'est un endroit très charmant, auquel évidemment je suis très attachée, mais ici passe une énergie particulière. C'est un endroit très harmonieux qui résume, malgré sa petite taille, sept châteaux dans la façade François Ier, qui est celle qui donne sur la cour d'honneur.
Je précise qu'on est dans la cour du château et qu'on est devant cette façade, donc de type Renaissance.
Exactement, elle est de type Renaissance avec une salamande de 1517 dans la tour de droite.
Symbole royal, symbole de François Ier.
Symbole de François Ier. Et si vous regardez maintenant la cour d'honneur, vous avez aussi toute la partie Sologne agricole en fait.
Voilà, parce que je crois qu'il y a un musée viticole, c'est ça ?
Il y a un musée de la vie agricole et viticole où on montre tous les objets aussi bien de la vie domestique que agricole et viticole pour faire vivre le petit domaine de Sologne d'antan. On a un arboretum aussi du 19e et aussi une serre Napoléon III. Et puis ce qui est amusant, c'est qu'à l'intérieur, à l'intérieur du château, vous passez aussi de siècle en siècle et de château en château, avec un résumé de nouveau à l'intérieur, avec une salle à manger inspirée du château de Blois, une entrée du château de Chaumont, des éléments rapportés de Jean Monnier qui rappellent Beauregard et Cheverny dans un petit salon, et enfin un salon 18e avec une perle qui est la porte de notre oratoire. Donc beaucoup d'éléments extrêmement différents sur une petite surface.
Donc un concentré d'histoire de France. Toutes ces richesses se visitent, bien sûr.
Du Val-de-Loire, exactement. Toutes ces richesses se visitent. On a deux visites par jour, du 1er avril au 30 septembre. Ouais. Une visite classique à 11h et une visite dégustation à 16h30. Et on n'ouvre qu'aux heures de visite parce qu'on est un domaine entièrement habité.
D'accord, c'est ça qui est intéressant. Je crois, donc vous y vivez, on peut le dire.
On y vit, exactement. Et comme on est... vraiment, on vit d'une façon aussi très artisanale. On n'est pas nombreux. Du coup, on s'occupe aussi bien des jardins que du potager, que de l'entretien, l'accueil des chambres d'hôtes, gîtes et des visiteurs, évidemment. Et la visite de l'après-midi, c'est une visite dégustation à 16h30 où on fait déguster plusieurs petites choses. Mais du coup, ce qui est très agréable pour nous, c'est qu'on peut recevoir les visiteurs comme vraiment des invités, et on partage un moment qui est un peu unique.
Et le chat de la maison vient nous rendre visite, ce qui est tout à fait sympathique.
Voilà, Pancho qui est là.
Ça fait combien de temps que vous êtes à la tête de Troussé ?
Alors Troussé est dans ma famille depuis 121 ans, et moi j'ai repris Troussé en 2015, donc ça fait maintenant 6 ans.
6 ans ?
Après 12 ans en Amérique latine. Ça a été très difficile au début, mais maintenant aujourd'hui, pas une minute je peux regretter. Ça a été une aventure humaine et...
C'est une vocation de reprendre un château ?
C'est un appel que j'ai senti. Ça ne s'explique pas très bien, en fait. C'est un peu viscéral. Il faut garder beaucoup d'humilité. Vous êtes juste un maillon de la chaîne. Donc, il faut évidemment parfois restaurer, etc. Mais il ne faut pas toujours transformer. Il ne faut pas oublier que, en fait, les prédécesseurs vivent à travers ce qui a été réalisé. Donc, en fait, il y a comme une espèce de...
De passage de témoin, peut-être.
De passage de témoin, de spiritualité, en fait.
Ouais.
On sent la présence des autres. Pas, c'est-à-dire, ce n'est pas des fantômes. Mais il y a comme une âme, en fait. Il y a comme une réunion de plusieurs âmes qui ont aimé les lieux. Et ça se ressent, je pense.
On est sorti de cette période de confinement. C'était difficile ?
Oui, c'était très difficile. Le début était très, très difficile. On a eu très peur. On savait pas très bien comment les choses allaient évoluer. Ça nous a permis aussi de réauditer, de voir qu'on faisait certaines choses peut-être un peu inutiles, parce qu'on est dans une époque où on rajoute toujours des activités, on n'en enlève jamais. Donc ça nous a permis d'épurer certaines choses. C'est pour ça qu'on fait plus que quelques visites par jour. Beaucoup plus accueillantes et qui correspondent davantage à,
aux attentes
et puis à tout, en fait. Pas forcément aux attentes, je pense que c'est même très, les gens ne s'attendent même pas à ça, en fait.
Ouais. Ils sont surpris
parce que c'est des choses qu'on fait plus, en fait, de prendre le temps d'accueillir les gens.
Voilà. Merci beaucoup, Isor, et je conseille vraiment aux auditeurs de Sud Radio de venir ici à Troussé quand ils viennent ici en Val-de-Loire. Voilà, Nathalie, c'est fini pour aujourd'hui. Moi, je vais continuer ma visite des châteaux de la Loire. Et je vous dis à la semaine prochaine.
Sud Radio, c'est ça la France.
Allez, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.